Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'AJT du local. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 mars et je suis très contente de vous accueillir dans cette émission autour de l'actualité en Mayenne, émission sur l'autre radio du lundi au vendredi midi. Et on va parler évidemment aujourd'hui de cette 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites qui avait lieu hier avec une triple mobilisation à Laval, à Mayenne et à Château-Gontier. Nous étions justement dans le cortège castro-gontérien hier après-midi. Vous allez entendre plusieurs paroles de manifestants toujours mobilisés contre le texte et qui comptent bien aller jusqu'au bout pour s'opposer à cette réforme. On va parler aussi de technologies qui permettent de mieux apprendre à l'école quand on est petit, mais aussi quand on est étudiant. Justement, ça c'est grâce à plusieurs projets développés par le laboratoire d'informatique de l'Université du Mans qui a une antenne à Laval. Plusieurs projets innovants donc qui ont été présentés aux enseignants la semaine dernière sur le campus lavallois. On va en détailler certains, voir quels sont les enjeux et puis pourquoi pas aussi la suite de ces projets-là puisque pour l'instant on parle bien de projets de recherche. Et on va entendre aussi ce mercredi une chronique du FC Que Choisir qui nous parle d'esclaves énergétiques. Alors dit comme ça, ça peut être un peu inquiétant ou un peu énigmatique, mais vous l'entendrez, tout va s'expliquer dans la chronique de Jean-Michel Guinaudot, ce sera plutôt dans une deuxième partie d'émission. Mais d'abord, un point sur l'actualité aujourd'hui. Après cette 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites hier, d'autres manifestent ce mercredi au péage de la Gravelle sur l'A81 en menant une opération péage gratuit. Elle est organisée depuis 8h30 ce matin par un collectif de pêcheurs bretons. Ils dénoncent notamment les applications de la Commission européenne et la décision du Conseil d'État d'appliquer des zones de fermeture à la pêche et la destruction de la flotte chalutière d'ici 2030. Il pourrait partir et lever cette opération ce midi. Et hier, au même endroit, donc sur le péage de la Gravelle sur l'A81, se tenait la mobilisation des transports bretons qui, eux, critiquaient l'impact de l'envolée des prix pour leur profession, à savoir l'envolée du prix du gasoil, de l'AdBlue, des pneumatiques, de l'entretien, mais aussi des péages. Sans oublier, ils pointaient du doigt aussi la concurrence déloyale des transporteurs étrangers. D'ailleurs, un tiers des stations-service mayennaises sont en manque d'essence, selon les derniers chiffres de la préfecture de la Mayenne. 30% d'entre elles n'ont pas de gasoil et 40% pas d'essence sans plomb, avec un sud Mayenne particulièrement touché. Mais la situation semble s'améliorer puisque ce sont près de 200 camions-citernes qui sont hier sortis du dépôt de Verne-sur-Sèche en Ille-et-Vilaine pour alimenter les stations-service du département. Et puis évidemment, on revient sur cette triple mobilisation en Mayenne hier contre la réforme des retraites. C'était une première décidée par l'intersyndicale pour cette 10e journée. Une première, non pas une première mobilisation, mais une première mobilisation dans les trois villes, à Laval, Mayenne et Château-Gontier, le même jour. À Laval, la manifestation le midi a rassemblé entre 2900 et 5000 manifestants, selon les sources. À Mayenne, ils étaient entre 850 et 1 millier, et à Château-Gontier, 700 manifestants dans le centre-ville selon les syndicats, 450 selon la police, tous opposés à ce projet de réforme des retraites et à l'utilisation du 49.3 pour ce texte. Reportage au sein du cortège de Château-Gontier.
Et nous ne tournerons pas la page comme vous l'exigez. Nous exigeons le retrait de cette réforme et nous l'obtiendrons.
Moi je suis ancien de l'hôpital de Château-Gontier, je m'appelle Henri. Voir des manifestations à Château-Gontier, c'est vraiment assez invraisemblable. C'est vraiment que c'est un mouvement de fond. Les gens qui nous gouvernent ne comprennent pas la réalité du travail, ne comprennent pas ce qu'est le travail sur le terrain. Moi, je travaille à l'hôpital. Tous ces gens-là, ils n'ont qu'à prendre une blouse blanche et venir travailler dans un service de gériatrie ou aux urgences. Là, ils vont comprendre. Et que 2 ans de plus pour tout le monde, c'est beaucoup trop. On a envie d'avoir une retraite qui soit paisible et qu'on puisse la vivre normalement. Il y a toujours la possibilité du référendum d'initiative partagée, avec 250, je crois, ou 280 parlementaires, signataires, et 4 millions de signatures. Avec ça, je crois qu'on pourrait faire quelque chose, et ça prouverait qu'on ne donne pas un blanc-seing à nos élus.
Moi, je suis assistante maternelle, je peux vous dire que tous les enfants, à longueur de journée, c'est épuisant quand même. Alors 2 ans encore en plus, non, c'est pas possible. Et puis, je pense à mes enfants et mes petits-enfants aussi qui sont derrière. Moi, j'ai déjà pris 2 ans par rapport à mon année de naissance. Ça fait 2 ans encore en plus. Et je me dis, et mes petits-enfants, et mes enfants, ils vont prendre encore combien en plus? Ça va être jusqu'à 70 ans. On a l'impression que ça devient une dictature. À la limite, il fait ce qu'il veut, quoi. On peut plus voter. Ça dégoûte en plus les jeunes qui vont voter aussi. Pourquoi voter? Puisqu'on ne nous entend pas. Donc, ça ne sert à rien.
J'ai 57 ans, je suis à la retraite. Je travaille un peu, mais je trouve que ce n'est pas normal. Moi, je suis de formation infirmière. Il y a déjà énormément de gens qui sont en arrêt de travail à partir de 55 ans. Parce que leur travail est trop dur, je pense en particulier aux aides-soignantes, aux infirmières, aux médecins.
Alors moi j'ai écrit Râle-melon parce que c'est un chapeau melon. Et derrière il y a la suite, des politiques gestionnaires et sans âme. L'éducation nationale, le système de retraite, pour libéraliser tout ça. Et les citoyens pour eux n'ont pas beaucoup d'importance, les gens ça n'a pas vraiment d'importance. Alors il n'est pas trop tard, il y a encore un petit espoir avec le Conseil constitutionnel. Maintenant, voilà, l'avenir nous le dira très très rapidement. Et ensuite, je pense qu'il ne faut rien lâcher, même si le projet est entériné, il semble qu'il en prenne quand même la direction. Je pense qu'il ne faut rien lâcher pour montrer qu'on ne peut pas laisser passer ça.
J'ai dit non, bien sûr, à la retraite pour les femmes. Quand j'ai eu des enfants, j'ai arrêté de travailler. Je n'ai pas pu retrouver mon poste au retour. J'ai calculé, certaines femmes vont avoir leur retraite à 69 ans. Vous imaginez?
Et la retraite, elle est acquise. Allez, c'est battu pour la gagner à cette patronne. La retraite, elle est acquise.
Et les syndicats au niveau national ont déjà annoncé une prochaine journée de mobilisation. Ce sera la 11e et ce sera donc le jeudi 6 avril. On fait une petite pause en musique avec une nouveauté de notre programmateur. Et oui, elle s'appelle Sigibet. Et c'est là, le morceau qu'on vous propose d'écouter, c'est Semblant, juste avant de retrouver l'interview du jour consacrée au EdTech. Qu'est-ce que c'est? Eh bien justement, on en parle d'ici 2 minutes.
Always try to do my best. À faire semblant, je crois que la vie peut t'étendrait la main comme l'auté quand ça lui chante. Tu dois te donner sans rien vouloir. T'auras beau créer, gérer, y'a pas de victoire. La moula pour remplir ton placard. Courir, bouger, je voudrais, mais c'est trop le foutoir. Y'a de la musique à filtrer dans le casé, posé sur ma chaise, joue le masque. Trop gaba pour m'écouter. Et ça me va, je préfère aimer chanter que blaser ça. Always try to do my best, mais je n'arrive plus à faire semblant. Je crois que la vie peut-être tendrait la main comme l'auté quand ça lui chante.
Vous êtes toujours sur l'autre radio à l'écoute de l'agité du local. Et là, c'était Sigibet avec leur titre Semblant. Et on va passer à l'interview de ce mercredi, faire une chasse au trésor pédagogique, mieux apprendre ces tables de multiplication ou encore simuler différentes expériences biologiques, autant d'objectifs fixés par 5 projets différents développés par des chercheurs du LIUM, le laboratoire d'informatique de l'Université du Mans, qui a une antenne en Mayenne sur le campus Laval-Changé. Développés en collaboration avec des enseignants, ces projets leur ont été présentés la semaine dernière à Laval pour montrer évidemment leurs possibilités, leurs possibles évolutions, mais aussi étendre leur utilisation.
Bonjour, moi je suis Rosane Lagré, je suis actuellement conseillère pédagogique, mais jusque l'année dernière j'étais enseignante sur le REP+ de Laval. Et c'est dans ce cadre-là que je suis enseignante, participante, on va dire co-constructrice, on va dire, du projet de l'IUM, de la réalisation en fait d'un jeu sérieux au service de l'apprentissage des tables de multiplication pour les élèves de fin de cycle 2, cycle 3.
Ben moi, je suis Bérénice Lemoine, je suis doctorante au LUM en informatique. Et je travaille, mon sujet de thèse s'inscrit un petit peu dans le cadre du projet adaptable. Donc c'est ce dont mentionnait Pierre tout à l'heure, les travaux qui parlent de la génération d'activités pour l'entraînement aux connaissances déclaratives. Et du coup, dans le contexte du projet adaptable, l'idée c'est de construire un jeu pour l'entraînement aux tables de multiplication qui prenne en compte à la fois les besoins de l'enseignant sur l'apprentissage, donc qui permet de faire notamment de l'enseignement différencié et de s'adapter aux différents besoins des apprenants, et aussi de prendre en compte la motivation des enseignants, puisque l'entraînement c'est quelque chose d'ennuyeux, et donc l'idée c'est d'essayer de motiver les gens à s'entraîner pour apprendre, pour retenir, et rendre ça un peu plus fun par le jeu donc.
Moi, dans le cadre de mon poste d'enseignante, j'étais aussi référente mathématiques, c'est-à-dire que c'est de la formation continue pour les enseignants du premier degré. Et c'est dans le cadre de cette mission que j'ai pris connaissance de l'envie de M. Laforcade avec ses étudiants de réaliser ce jeu sérieux avec la collaboration des enseignants et de leurs élèves.
On s'est aussi rendu compte en fait que en fonction des enseignants, la manière d'entraîner était différente et donc il fallait prendre en compte tous ces paramètres. C'est pour ça qu'à la base, on était plutôt sur une adaptation à l'apprenant et aujourd'hui, on est sur une adaptation à l'enseignant et à l'apprenant. Donc c'est l'enseignant qui adapte pour l'apprenant l'entraînement, tout simplement. C'est un jeu de type donjon ou type roguelite pour les joueurs un petit peu. Donc l'idée, c'est qu'on est dans des salles, on doit parcourir un donjon et on a des questions dans chaque salle. Et pour sortir d'une salle, il faut répondre à la question. Et ça permet d'avancer, donc on a différentes formes de questions, avec différents types de questionnements. On peut soit saisir des réponses, soit choisir parmi des propositions. Et l'idée, c'est d'avoir plusieurs gameplays variés. Donc un coup, on va pousser des objets, la fois d'après, on va tuer un ennemi, ou dans la prochaine version, attraper un lapin. C'était une demande d'un enseignant qui n'aimait pas l'idée de tuer un ennemi, et qui du coup préférait qu'on caresse ou attrape des lapins.
Les premières expérimentations avec les élèves était plutôt tournée sur justement la motivation qu'un tel jeu provoquait. Alors assez rapidement, notamment les grands se sont rendus compte que d'accord on joue, mais là tu es aussi en train de nous entraîner et nous exercer aux tables de multiplication, donc c'est pas un élément à cacher, effectivement c'est l'objectif du jeu. Et donc les premières expérimentations, effectivement à la suite de ces expérimentations il y avait toujours des temps d'échange. À chaque fois, donc ça a porté sur le personnage, l'univers, la prise en main, donc avec manette, sur clavier, et aussi les éléments qu'ils aimeraient voir apparaître. Alors il y avait des choses complètement irréalisables, mais il y a aussi des choses qui ont été pertinentes, qui ont été prises en compte pour l'évolution du jeu. Et puis au fil du temps, on a plutôt affiné les questions sur justement les critères de choix.
On n'est pas tous des joueurs, on n'aime pas tous jouer. Et donc y en a qui vont beaucoup aimer le challenge, la difficulté, le côté gameplay, le côté variété. Il y en a qui vont pas du tout aimer ça. Donc l'idée, c'est que s'ils aiment pas ça, ils puissent le limiter vraiment, donc de ne pas rajouter différents gameplays ou de variété, qu'ils puissent simplifier, parce qu'il y a des difficultés. L'idée, c'est qu'il y ait de la difficulté dans le jeu. Si ça devient trop difficile d'un point de vue jeu et pas d'un point de vue, c'est qu'ils puissent l'inhiber complètement et sinon qu'ils puissent le rendre plus dur s'ils en ont envie, s'ils trouvent qu'ils s'amusent et que plus c'est difficile et mieux c'est pour eux. L'idée c'est de trouver une balance parce qu'il ne faut pas non plus que ça vienne empiéter sur l'apprentissage.
Pour l'instant, le jeu est encore en cours de construction, donc il n'a pas été mis en place sur toute une année scolaire, par exemple, avec finalement une forme d'évaluation sommative en se disant « Ah oui, ça a eu un effet bénéfique ». Ce qu'on sait déjà, c'est en termes de motivation, c'est certain. Donc ce qui veut dire motivation, ça veut dire que l'élève va y revenir plusieurs fois et qu'on on favorise la mémorisation.
Il faut imaginer que le jeu, là, c'est qu'un prototype, mais l'idée, c'est qu'il serve un peu comme un lecteur de DVD et que nous, on construit le moteur qui permet de créer les DVD. Et du coup, forcément, ça prend beaucoup de temps. Et ensuite, il faut que les deux côtés avancent en même temps. Et on a plein d'idées. Là, c'est vraiment un prototype. Il n'y a que quelques gameplays. Par exemple, on n'a qu'un seul type de tâche qui va être de compléter un fait avec un élément manquant. Alors qu'on en a défini quatre autres avec les enseignants, comme identifier si un fait est vrai ou faux, reconstruire un fait complètement. Et ça, ce n'est pas encore implémenté. Donc, c'est des choses qui demandent du temps parce qu'on doit modéliser. Il y a le côté question de recherche derrière aussi qui prend du temps. Et là, on s'en rapproche. Donc l'objectif, ce serait d'avoir une version à peu près complète d'ici août. Ce serait déjà très bien.
Alors Benoît Duchesne, donc membre de l'association Mayenne Nature Environnement. Voilà, et bien, j'ai été invité par d'autres enseignants à m'intéresser à ce projet donc, qui était proposé donc, par une chercheuse, Isa Marfizi, voilà, à l'IUT de Laval, et donc qui s'appelle Si tu l'ernes. Donc c'est une application en quelque sorte qui doit permettre à chaque enseignant ou à toute personne qui le souhaite de créer des sorties. Nous, on était intéressés, enfin moi j'étais intéressé parce que j'anime et je pratique des sorties nature avec des élèves ou avec le public, un grand public. Et donc du coup, je me suis intéressé à ce projet et je suis rentré donc dedans en essayant de créer des sorties avec cet outil Si tu l'ernes. Alors voilà, c'est les premiers essais et on améliore l'outil au fur et à mesure. Enfin, ce sont surtout les chercheurs qui améliorent l'outil et nous, on leur dit ce qui va ou ce qui ne va pas. Voilà. Nous, on était très intéressés à Mayenne Nature Environnement parce qu'on a donc des sites qu'on a labellisés sur le chemin de la nature. Et donc, il y a une quarantaine de sites en Mayenne qui sont des sites qui permettent à des écoles ou au grand public de découvrir la nature autour de chez soi. Et sur ces sites, parfois, on a une plaquette qui présente le site, donc un papier, ou on a des panneaux qui ont été réalisés souvent avec les écoles. Voilà, mais l'idée, c'était aussi là peut-être d'avoir un outil complémentaire qui était un outil virtuel, qui était une application qui permettait de proposer une sortie, voilà, avec de la possibilité d'avoir des documents, des informations, et puis une forme assez ludique, voilà, qu'on peut faire en famille, et donc de parcourir chaque site avec cet outil, voilà, avec Si tu l'ernes. Donc voilà, là pour l'instant on est au stade d'un essai sur un site et voilà, et on expérimente les sorties avec les classes de l'école publique de l'Huisserie où il y a plusieurs enseignants qui sont associés au projet. On a le smartphone, on se connecte sur Si tu l'ernes, hein, c'est accessible déjà au public, hein, et donc on va télécharger la sortie, là c'est le chemin du Fougeray. Et puis, on va avoir un certain nombre d'activités à réaliser ou d'informations en se déplaçant voilà, avec l'application. Donc, à chaque fois que vous arrivez à un point qui est proposé, hein, vous avez des petits indices pour les retrouver, ces points. Voilà. Et puis, à chaque fois que vous arrivez à un nouveau point, vous avez une nouvelle activité qui est proposée. Ça peut être simplement de reconnaître des feuilles d'arbres, par exemple. Alors, vous avez aussi des guides, hein, dans l'application. On a mis à disposition des guides. Donc, de reconnaître des feuilles d'arbres, apprendre leur nom, voilà. Alors ici on peut proposer même de les collectionner, voilà, pour les apprendre, ces feuilles d'arbres. Ça peut être la même chose pour les fruits. On va proposer à certains moments de faire des photos ou de répondre à une question. Il y a des petits QCM aussi, voilà. Et on peut soit compter les points, soit pas les compter, mais voilà, c'est possible aussi. On vise à un petit peu permettre aux personnes quand même de non seulement parcourir ce chemin, mais d'essayer de porter son attention à la nature, de regarder, parce que la nature nous entoure, mais on ne sait pas toujours la voir. On est un petit peu déconnecté aujourd'hui de cette nature. Donc là, l'idée, c'est de faire porter l'attention sur des éléments naturels, comme j'ai dit, reconnaître les arbres, les fleurs, écouter les oiseaux et se sentir bien dans la nature. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on vise, l'objectif qu'on vise. Et peut-être que c'est le public du week-end, voilà, les gens qui vont venir en famille, qu'on visera à terme. Voilà, enfin, c'est notre objectif. On a encore du chemin à parcourir parce qu'il faut effectivement créer toutes ces sorties. Voilà. C'est un début voilà, qui est encourageant, et puis c'est un peu enthousiasmant de travailler sur ce projet. Voilà. On va avoir sur un ou deux sites, d'ici 6 mois, je pense, l'accès à ça. Voilà, au moins sur les deux premiers sites. Et à l'Huisserie et probablement sur l'Aubépin, là, donc à Laval.
Donc, je m'appelle Isa Marfizi, je suis maître de conférence à l'Université du Mans et je travaille ici à l'IUT de Laval, donc j'enseigne l'informatique au département informatique. EdTech, ça veut dire Educational Technology. Donc en gros, c'est tout ce qui est outils numériques pour l'apprentissage et la formation professionnelle, quel que soit l'âge des personnes. Alors au niveau de l'objectif, en fait, il y avait plusieurs objectifs. Le premier objectif que j'avais, c'était de remercier les enseignants pilotes qui participent à nos projets, puisqu'on fait vraiment des projets en co-conception avec les enseignants. Donc, c'est-à-dire qu'on va les voir dès le début du projet pour comprendre quels sont leurs besoins et puis tester aussi les prototypes de nos outils petit à petit qu'on développe avec eux. Et puis à la fin du projet, on le teste aussi dans leur classe. Donc les enseignants sont vraiment une partie très importante de nos projets de recherche et ils font souvent ça sur leur temps libre. Et donc voilà, je voulais aussi les remercier. C'est pour ça qu'ils sont ici en train de présenter leur projet. Je suis très contente de les avoir. Moi, j'ai deux projets que je présente aujourd'hui, mais il y en a d'autres, hein, qui sont faits par mes collègues. Alors, j'ai un projet qui s'appelle MixApp, qui est un projet pour aider les enseignants à créer leur propre application avec de la réalité augmentée. Donc, concrètement, c'est utilisé... on l'a conçu avec une vingtaine d'enseignants pilotes avec l'aide du réseau Canopé. Et donc, on a des enseignants de tous les niveaux, de toutes les matières. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir la variété de leurs activités pédagogiques et la variété, la façon dont ils utilisent l'outil aussi. Donc, pour vous donner un exemple, on a une enseignante qui augmente un livre, un album jeunesse qu'elle utilise avec ses élèves. Et donc, quand les élèves passent la tablette sur des ciseaux, par exemple des ciseaux avec des yeux, donc c'est une illustration, on voit en fait une image de vrai ciseau et on voit le texte ciseau. Et donc là, elle est en train de travailler des compétences d'acquisition de vocabulaire et aussi de reconnaissance de mots, enfin de lettres, puisque l'objectif, c'est après de trouver dans une petite barquette le mot qui correspond et le coller sur une fiche d'activité. On a aussi la même application est utilisée par une prof d'histoire géo qui travaille sur une carte de Paris où on va voir en fait en réalité augmentée où se sont situées les grandes étapes de la Révolution française. On a aussi d'autres enseignants qui l'utilisent vraiment dans des contextes très variés. C'est super intéressant de voir comment ils s'approprient l'outil et ce qu'ils en font. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ça va bien au-delà de ce que nous, on aurait imaginé au départ. Donc là, on en est à peu près à un an du projet. On a pu développer plusieurs prototypes. Donc là, on est sur la troisième version. Et là, on est en plein test avec les classes. Donc c'est super intéressant puisqu'on voit concrètement le résultat final de comment les élèves s'approprient l'outil, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et donc, c'est très enrichissant. C'est un bonheur, en fait, de voir nos outils utilisés en classe. Et on espère que ces outils seront utilisés encore longtemps. Nous, notre objectif, c'est que, donc effectivement, on fait de la recherche, donc il faut qu'on expérimente, voir si nos hypothèses de recherche sont validées ou invalidées. Donc, dans ce cadre-là, c'est plutôt juste l'usage un jour, dans une classe. Mais à terme, on aimerait bien que ces outils soient utilisés de façon beaucoup plus classique, en fait, dans la vie de tous les jours. Hop, une classe, un enseignant, il sort l'application et il l'utilise comme il veut. La difficulté, c'est de trouver en fait un moyen de pérenniser ces outils après le projet de recherche. Parce que des projets de recherche, ils sont financés 2 à 3 ans maximum. Et après, concrètement, on n'a plus les financements et on n'a plus les moyens humains de continuer à développer cet outil, même à vérifier qu'il soit bien mis à jour, etc. C'est là le deuxième enjeu de cette journée, c'est aussi de trouver un moyen de pérenniser ces outils qui sont issus de la recherche et de trouver des moyens de collaborer avec des entreprises, avec l'éducation nationale, de façon à ce que ces outils soient repris par une institution et mis à disposition gratuitement pour les enseignants. On aimerait bien les voir utilisés de façon plus générale dans tous les lycées et tous les collèges, pourquoi pas.
Certains de ces projets sont d'ailleurs d'ores et déjà utilisés dans le monde de la culture, en l'occurrence par les archives départementales de la Mayenne. Vous pourrez les retrouver en détail sur le site, et vous pouvez déjà les retrouver en détail sur le site lium.univ-lemans.fr. À venir, la chronique du FC Que Choisir, où on va parler esclaves énergétiques. Et oui, ce sera juste après ça.
Sur le pavé, pendant la nuit, les parasites. dans ce monde où tout m'oppresse. Je me construis, j'allume mon propre image. Moi, la vie, c'est quand il faut que je me dépêche. Et si je sors, c'est pour tout effacer de ma mémoire. J'aurais voulu le calme, éviter les histoires et éviter les drames, mais il est déjà trop tard. La vie me crame, mais dans les nuits, je trouve mon heure de gloire. Pendant la nuit, les paradis s'effacent, les masques tombent pour célébrer le néant et la folie. Dans cette énigme qu'on appelle la vie, j'ai envie de courir.
C'était Paradigme de la femme, issu de l'album, eh bien Paradigme aussi, sorti en 2020. Vous êtes toujours dans l'agité du local, sur l'autre radio, dans le poste de l'autre radio aussi. Ça fait très, très rétro comme expression, mais pourquoi pas, ça marche encore. En tout cas, donc sur l'autre radio, vous le savez, que vous nous écoutiez à Laval sur le 101.7 ou à Château-Gontier sur le 107.9. Vous êtes bien dans l'agité du local. Et ce mercredi, on zoome sur notre consommation d'énergie dans la chronique du FC Que Choisir avec Jean-Michel Guinaudeau qui nous parle de nos esclaves énergétiques. Bonjour Jean-Michel Guinaudeau, vous voulez revenir aujourd'hui sur l'énergie et l'usage que nous en faisons.
Eh oui, au commencement était la nature et l'homme parmi les êtres vivants. La force humaine était la seule disponible. Un homme, en bonne santé, peut fournir 100 kW par an avec ses jambes pour se déplacer ou chasser, et 10 kW par an avec ses bras pour labourer, semer, couper ou tailler un silex. Et pour multiplier l'énergie dont il peut disposer, il doit asservir un ou plusieurs autres hommes. Il invente l'esclavage. Par comparaison, une maison chauffée à l'électricité consomme environ 70 kW par jour en hiver, soit l'équivalent de 7 hommes. Puis, l'homme a domestiqué les chevaux et les bœufs, multipliant l'énergie disponible par 7. Il a su aussi domestiquer l'eau et le vent avec les moulins, multipliant par 10 la disponibilité. Il disposait ainsi l'équivalent de 10 esclaves. Et tout ça sans polluer, puisque tous les déchets humains ou animaux sont entièrement réutilisés par la nature, sans nuire au cycle naturel.
Et alors, aujourd'hui, qu'en est-il ?
Eh bien, il y a environ 250 ans que l'on a commencé à savoir utiliser ce que l'on appelle l'énergie fossile. L'eau, le vent, même le bois, retournent à la nature sans lui nuire, après avoir produit leur énergie. Il a pu y avoir des excès, avec le détournement des rivières ou la déforestation, mais sans les machines, la nature reprenait ses droits. Avec l'invention de la machine à vapeur, que l'on fait fonctionner d'abord avec du bois, beaucoup de bois, difficilement transportable, puis en utilisant le charbon, extrait des entrailles de la terre avec des pics, puis des outils pneumatiques, l'énergie disponible est alors considérablement accrue et pour un prix très bas. La chimie du pétrole permettant la production de carburant liquide, facilement transportable, avec peu de risques immédiats, multiplie alors la disponibilité en énergie, à un coût très bas. Et puis, l'homme a domestiqué l'énergie atomique, enfin, il le croit. Pour faire produire son énergie par des humains, chaque Français devrait avoir à son service entre 400 et 500 personnes qui, payées au même prix que l'énergie fossile, seraient des esclaves.
Mais évidemment, c'est impossible.
Et ce calcul est évidemment théorique, car 1 kWh de moteur coûte, même maintenant, entre 1000 et 10 000 fois moins cher qu'un travailleur humain payé au SMIC. Mais surtout, ce que l'on sait cacher, c'est que ces ressources sont, par définition, épuisables et rompent le cycle naturel. En utilisant en quelques années ce que la nature a mis plusieurs millions d'années à produire, l'homme a déréglé le cycle naturel.
Et provoqué le dérèglement climatique actuel ?
Exactement. Conjointement à l'extraction de l'énergie et de son utilisation, les gaz qui étaient stockés dans le charbon et le pétrole ont été libérés. Ainsi, La voiture produit 2 tonnes de CO2 par an et par personne. Nos logements, 1,7 tonnes. Les services publics et la santé, 1,5 tonnes. Et les nouvelles technologies, 1,2 tonne. Soit, rien que pour ces postes, 6,4 tonnes de CO2 par an et par Français. Il faut donc changer nos comportements. La sobriété est nécessaire. Sans se priver, rien qu'en rationalisant nos habitudes, on diminuera le nombre de nos esclaves énergétiques dont on a besoin. Vous vous voyez avec 500 esclaves à votre service ?
Évidemment pas. Hein. Merci beaucoup Jean-Michel Guinaudeau pour ce rappel sur notre consommation énergétique malheureusement excessive. Pouvez-vous nous rappeler les coordonnées de votre association au cas où nos auditeurs mayennais seraient en litige avec un professionnel ?
L'UFC Que Choisir vous informe au 02 43 67 01 18 ou sur mayenne.ufcquechoisir.fr et notre page Facebook. Nous pouvons vous recevoir sur rendez-vous à Laval, Mayenne et Château-Gontier pour vous aider à résoudre vos litiges avec un professionnel.
Et merci beaucoup. Prochaine chronique à retrouver dans 15 jours. Et d'ici là, vous pouvez toujours écouter celle-ci sur les esclaves énergétiques, mais aussi toutes les autres en podcast sur l'autreradio.fr. Puisque c'est la fin de notre émission L'Agité du Local pour ce mercredi, je compte sur vous pour rester à l'écoute de l'autre radio, puisque ce soir à 19h, il y aura Novorama et on poursuit en musique avec The Voice of Cassandre et à 20h, suivi à 21h de Déclectic Jazz. Voilà, là vous avez le programme dans l'ordre. Et nous, on revient demain. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée.